Salut à tous et bienvenue dans Les Jardinières. Nous sommes le samedi 27 octobre et pour débuter chaque week-end sur votre radio, vous le savez, on passe une heure ensemble à parler jardinage. C'est vous et moi, mais c'est également Sophie. Bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on fait le plein de bons conseils pour vos jardins et vos plantes avec notre professionnel du jour, Olivier Ribaud, le patron de l'entreprise Olivier Pépiniériste à Queuve. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Il est 7h09 et malgré le fait qu'il soit encore bien tôt ou qu'il fasse encore frais, Olivier est là pour répondre au mieux à toutes vos questions qui, on l'espère, seront nombreuses ce matin. Bah oui, c'est pas parce qu'on s'approche de l'hiver que nos plantes n'ont plus besoin de nous. Au contraire, vous avez un doute, une question, c'est le moment pour trouver la réponse à toutes ces questions.
Des questions que vous pouvez nous faire parvenir par divers moyens. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Olivier pourra donc vous répondre personnellement. Mais si votre voix est encore au lit ou que votre timidité prend le dessus, vous pouvez aussi opter pour le SMS en écrivant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question et en envoyant le tout au 939. Et il existe également un formulaire que vous trouverez sur nos sites sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Et si vous choisissez de nous écrire vos questions, pensez à bien détailler votre problème afin que la réponse puisse être le plus précise possible.
Eh bien Sophie, je crois que vous avez tout dit. On est parti dans Les Jardinières jusqu'à 8h.
Les Jardinières, Sophie et Stéphanie.
Première question pour vous Olivier, elle nous vient de Sarah de Moutier qui nous dit qu'elle a plusieurs orchidées à la maison. Elles ont des sortes de racines aériennes, on lui a dit que c'était des réserves d'eau. Alors est-ce qu'il faut les couper? Si oui, comment et surtout comment les entretenir?
Alors c'est la fameuse question tout le temps sur les orchidées, ces fameuses racines qui dépassent du pot. C'est pas bien de les couper je dirais parce que c'est une racine qui est sortie, c'est pour absorber l'humidité de l'air parce qu'elle va aussi prendre de l'eau par les racines par l'air, donc faut pas les couper. Ce qu'il faut faire c'est quand on les rempote, si elle veut les transplanter, les mettre dans un pot plus grand ou comme ça, ces racines on va les rediriger vers l'intérieur du pot, puis elles vont se remettre comme les autres racines à travailler dans le sol, puis absorber les éléments par le sol, par le substrat. Donc il ne faut pas les couper, il faut les rediriger directement dans le pot. On peut le faire à fur et à mesure quand elles sortent aussi, quand on les voit grandir, c'est les mettre dirigées entre la terre et le pot, et puis comme ça elles vont continuer de redescendre dans le pot plutôt que de rester en l'air.
Et justement quand il y a trop de ces racines comme ça, est-ce que vous conseillez de remettre dans un pot plus grand?
Alors c'est l'occasion de la dépoter, enlever l'ancienne terre, et puis rassembler toutes ces racines, aussi bien celles qui étaient dedans et puis celles-là, et puis de les remettre avec un nouveau substrat qui est contre facilement, qui est exprès pour les orchidées, avec justement un bon terreau, et puis après elles vont bien repousser.
Alors voilà. Une deuxième question pour aujourd'hui qui concerne une plante, la Crassula ovata gollum, si je dis bien.
Bien le gollum.
Oui. Alors c'est quelqu'un qui sollicite votre aide parce que justement ils ont acheté cette Crassula ovata gollum en pot chez un fleuriste il y a 3 jours. Cependant, il a décelé plusieurs traces circulaires noirâtres recouvertes d'un duvet sur certaines feuilles. Et aussi des traces foncées qui pourraient s'apparenter à des traces de cicatrisation ou de brûlure. Et c'est Félicien qui pose la question, savoir si vous pouvez l'aider à trouver, à identifier le problème et du coup trouver une solution.
Alors oui, tout à fait. Bon, moi c'est plus facile parce que j'ai la photo sous les yeux.
Voilà, alors on a reçu effectivement une photo qu'on a montrée à Olivier Ribaud.
Donc je vais déjà juste expliquer en deux mots ce qu'est une crassula. Donc une crassula c'est une plante grasse, style cactus on dira, mais qui n'a pas d'épines. Donc il fait partie de toutes ces plantes qui ont vraiment pas besoin d'eau ou très très peu, je dirais. Et justement le problème de cette plante cette personne a acheté, je pense, et puis qui a peut-être malheureusement pas assez bien observé, parce que ça arrive souvent sur ce genre de plante, c'est qu'elle a eu peut-être une période avant son achat, donc qui a été une fois ou sur une période un peu plus longue, trop humidifiée, donc trop d'eau, parce que c'est vraiment la plante de sec, de chaleur, donc automatiquement aussi, elle a peut-être manqué un peu de lumière, peut-être avant son achat, elle a peut-être été transportée ou elle a été restée enfermée peut-être trop longtemps dans une partie ombragée, dans dans une maison ou dans un point de vente. Et puis elle a développé un petit champignon qui fait que cette plante, elle a quelques taches qui sont, comme il dit, circulaires et puis qui pourrissent. Et puis après, il vient ce duvet blanc, comme sur un fruit, une tomate ou un fruit qu'on va jeter parce qu'il a pourri. Puis il y a ce duvet de pourriture. Et puis les parties où c'est que c'est devenu un peu brun, un peu comme une cicatrice, comme une croûte, et bien c'est des anciennes parties de pourri que la plante a refait, puis s'est cicatrisée pour combattre cette partie. Donc au niveau lutte, il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau traitement, ce ne serait pas nécessaire. Seulement, ce qu'il faut faire, c'est contrôler que cette plante reste le plus sec possible. Enfin, je dirais qu'avec un petit apport d'eau par mois, cette plante peut survivre sans problème. Donc, c'est juste ça qu'il y a eu une fois ou deux, trop d'eau, trop d'humidité ambiante. Et puis maintenant, elle a ça. Donc, ces symptômes ne peuvent pas être enlevés. Mais ça, la plante peut les combattre elle-même sans problème.
Donc c'est réparable.
C'est réparable. Il restera quelques petites cicatrices, mais ce n'est pas très grave.
Merci Olivier Ribaud. On vient juste à l'instant de recevoir un SMS de la part de Jérôme qui aimerait faire pousser des plantes de kiwi à partir de graines. Quel conseil est-ce que vous pouvez lui dire, sachant qu'il aimerait faire pousser ses kiwis au début à l'intérieur, puis ensuite les mettre à l'extérieur ?
Alors le kiwi, c'est quand même un peu particulier à faire pousser par la graine parce qu'il ne saura pas s'il aura un plant femelle ou un plant mâle. Parce que c'est une plante qu'il faut avoir les deux plantes pour avoir le plus possible de fruits. C'est déjà très compliqué quand on achète un plant de kiwi qui a été produit par un pépiniériste parce que nous, on va les greffer. Dans les pépinières spéciales, on greffe le kiwi. Comme ça, on est sûr d'avoir pris des jeunes pousses sur un plant qui est déjà certifié mâle et qui est femelle. Donc, on peut même trouver de plus en plus des plantes kiwi où c'est que vous avez les deux sur la même plante. Mais sinon, il faut planter les deux. Alors, si sème, ça va pousser, ça va mettre beaucoup de temps, mais c'est pas sûr qu'après, au final, il ait un résultat de fruit. Mais par contre, il aura une très jolie plante avec de très jolies feuilles, très grandes, très velues, très, très belles, mais ça prendra du temps. Donc, c'est peut-être un peu risqué pour beaucoup d'énergie pour ne pas avoir un résultat au bout avec quelques fruits quand même. Voilà.
Et on a encore une question qui nous vient de Carole. Elle nous demande comment obtenir une belle floraison de chrysanthème.
Ah, ça c'est une très bonne question par rapport à la saison, parce que c'est quand même maintenant que la chrysanthème fleurit quasi naturelle, donc depuis cette saison maintenant jusqu'au printemps. Dans ces pays d'origine, la Chine et autres, le chrysanthème, c'est une fleur de fin d'année, début d'année. Alors pour le faire fleurir, ça dépend un petit peu comment elle est partie. Et si elle achète un chrysanthème qui est déjà bien boutonné, comme on trouve maintenant, qu'on voit vraiment bien apparaître la couleur, il faut juste surveiller les arrosages, parce que quand on a des fortes chaleurs, c'est une plante qui peut vite avoir soif. Et puis après, la laisser continuer de s'épanouir seule, en la laissant à la lumière, et faire attention à des coups de froid qui peuvent arriver la nuit. Mais sinon, c'est une plante qu'on peut garder en fleurs, au frais, pendant vraiment plusieurs semaines.
Et on rappelle même que, ma foi, c'est pas mal utilisé sur les cimetières, qu'on peut également en mettre autour de chez nous. C'est très joli, la chrysanthème.
Alors voilà, la fleur du chrysanthème a été appropriée pour être utilisée à la période de la Toussaint. C'était une fleur qu'on pouvait cultiver facilement dans ces périodes-là, vu sa floraison naturelle. On a beaucoup, dans le temps, utilisé la chrysanthème à grandes fleurs, qu'on produit pour... justement, c'est une culture spéciale qui était une mode un temps, qui passe gentiment, justement, parce qu'on va préférer ces chrysanthèmes à petites fleurs marguerites, et on en trouve vraiment maintenant avec des couleurs très jolies, très spectaculaires. Et puis, on peut les utiliser, justement, en automne, en bac à fleurs, sur les fenêtres, ou comme ça, que ça donne vraiment des beaux effets qui sont agréables à regarder.
Les jardinières.
On est ensemble jusqu'à 8h dans Les jardinières. C'est Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuve, qui est avec nous. Olivier, on a reçu une question de la part de Pierre de Courgenay qui nous parle d'ail. À quel moment, selon vous, c'est mieux de planter de l'ail ?
Alors l'ail se plante à cette période, en automne, comme les oignons d'automne, qu'on peut aussi planter maintenant. Donc vous allez trouver dans le commerce des sachets avec quelques ailes dedans. Mm-hmm. Normalement, elles sont déjà défaites, justement, quand on les prend à l'achat comme ça. Donc vous allez planter ça dans le jardin, à 6-8 cm de profondeur. Vous allez laisser ça comme ça pour cet automne, cet hiver. Elles vont déjà faire quelques petites feuilles avant l'hiver, et puis au printemps, elles vont pousser, elles vont faire des longues feuilles, un peu comme un poireau. Mm-hmm. Et puis à l'automne prochain, donc dans une année comme maintenant, eh bien vous allez les retirer, puis c'est là que vous aurez une gousse d'ail dans le sol, que vous allez mettre sécher ou consommer verte ou rose, comme certaines variétés d'ail.
Ah bah ça prend quand même pas mal de temps, hein, presque une année.
Ça prend une année, oui. Par contre, l'oignon que vous plantez à l'automne comme maintenant, vous allez déjà le récolter plus vite au printemps. Vous allez le récolter dans la période d'avril, mai, au plus tard. Et puis après, on remet les oignons de printemps.
Comment on voit quand c'est prêt ?
Un oignon, une ail, quand elle est prête, c'est que le feuillage devient complètement desséché. Donc, je dirais presque que vous n'allez plus les retrouver.
Oui.
Donc, ils vont rester dans le sol, puis ils vont repousser, puis revenir l'année d'après. Donc, c'est pour ça qu'il faut les sortir du sol. À un moment donné, quand vous voyez que les feuilles viennent sèches et puis qu'elles tombent, il faut aller chercher dans le sol le rhizome, donc l'oignon, pour le consommer.
On a reçu un téléphone. Sophie, vous avez pris la question de cette personne que vous aviez en ligne.
Oui, alors on a reçu un téléphone de Jean de Bonfol qui a un plant de rhubarbe et qui se demande si il peut faire quelque chose pour passer l'hiver, pour que ce plant de rhubarbe passe l'hiver, parce qu'il a eu les autres années des problèmes en printemps, les feuilles ne revenaient pas. Et du coup, là, il se dit, maintenant, il y a encore quelques feuilles, donc est-ce qu'en prévision du gel, il y a quelques précautions à prendre ? Est-ce qu'il peut faire quelque chose ou non ?
Okay.
Pour récupérer après l'hiver, en fait.
C'est rigolo, comme les questions par rapport à l'oignon, l'ail, la rhubarbe, c'est un petit peu le même principe. Donc, c'est un plant de rhubarbe, c'est un rhizome, un grand volume de racines qui sont dans le sol, qui sont en train de le feuillage maintenant est en train de disparaître, justement, le feuillage a été là pendant toute la saison d'été pour remplir d'énergie le rhizome, pour qu'au printemps, quand il reviendra le nouveau feuillage, dans les beaux jours, ces nouvelles feuilles vont ressortir, puis vont être nourries justement par ces racines qui sont maintenant à l'intérieur du sol. Donc, en espérant que cet été, son plant de rhubarbe n'ait pas eu trop sec, trop soif, la seule chose qu'il peut faire à cette période maintenant, ce serait de le laisser finir, donc le feuillage finir de sécher, mais c'est de lui apporter soit du fumier bien décomposé, soit du compost aussi bien défait, mais amener quelque chose de matière organique très riche, pour que pendant l'hiver, l'humidité, la pluie, la neige fassent descendre ces éléments encore sur ce plant de rhubarbe, et puis qu'au printemps, quand il sortira ses nouvelles feuilles, il a beaucoup d'énergie pour faire des belles côtes, donc des belles feuilles pour utiliser ces feuilles de rhubarbe à la consommation. Donc c'est la seule chose à faire. C'est pas nécessaire de le protéger pour le froid, parce que c'est très très résistant, un plant de rhubarbe. Mais par contre, de lui mettre une couche de fumier gras, c'est pour lui apporter de la nourriture pour bien pousser.
C'est ça ce que vous appelez matière organique.
Matière organique, voilà.
On attaque la deuxième partie des jardinières. Comme chaque samedi, pendant une heure, ce sont vos plantes qui sont à l'honneur. Ces plantes qui demandent beaucoup de travail et suscitent beaucoup de questions d'entretien. Pour répondre à vos questions aujourd'hui jusqu'à 8 heures, c'est Olivier Ribaud, le patron de l'entreprise Olivier Pépiniériste à Queuve, qui est avec nous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Et je vous rappelle que les jardinières, ce n'est pas seulement Stéphanie et moi qui l'animons en compagnie de notre jardinier du jour, mais c'est grâce à vous qu'elle prend vie. Toutes vos questions sont les bienvenues au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pourrez alors discuter avec notre pépiniériste Olivier Ribaud. Mais on lit également toutes vos questions reçues par formulaire que vous trouvez sur nos sites internet et par SMS. Petit rappel, SMS, c'est super simple de nous contacter. Il vous suffit d'indiquer le mot jardin, de laisser un espace et de taper votre question, et vous nous envoyez le tout au 939.
Et justement, vous aviez reçu un appel pendant la pause musicale, Sophie.
Exactement, on a reçu un appel de Michel de Basse-Cour qui a plusieurs pruniers, des pruniers qui donnent sur la route, et un prunier qui est dans un ruisseau, apparemment. Et il aimerait savoir si c'est possible de le déplacer pour le rendre plus accessible. Il précise que c'est un prunier qui n'est pas trop grand.
Alors justement, c'était un petit peu la question que j'aurais eu à lui poser si on l'avait eu en téléphone. Mais si c'est un prunier qui a encore une taille, je dirais, respectable, pas trop grande pour être transplantée. C'est faisable. Et c'est vraiment maintenant la période où c'est que ben, je profite de ça, ce lancement, de dire que c'est depuis maintenant qu'on commence de vraiment planter tout ce qui est arbres fruitiers. C'est la saison. On a laissé passer cette saison où c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de fruits. Mais on se rend compte que les gens sont toujours intéressés à savoir, à replanter du fruitier. Donc c'est maintenant que ça se fait. Vous allez trouver dans le commerce des fruitiers essentiellement à cette période en racines nues. Donc comme ce monsieur pourra le faire, il va arracher son fruitier. Il n'aura que des racines. Il va les couper proprement avec un sécateur pour rafraîchir le bout de la racine, la coupe de la racine. Il ne faut pas qu'elle soit arrachée, il faut qu'elle soit coupée proprement. Et après, le remettre en terre. Et c'est là, avec un bon substrat, une bonne terre. Il ne faut pas mettre trop d'apport de terreau, de choses comme ça qui viennent d'ailleurs. C'est la meilleure temps d'utiliser une bonne terre de jardin, bien fine. Justement, à cette saison, on en a bien assez. Donc, il va mettre une terre bien fine autour de cette plantation. Et puis, ben, c'est après, pendant l'hiver, que son prunier va refaire des petites radicelles qu'on ne verra pas. Et puis, qu'au printemps, mais il aura de nouveau assez de racines pour redémarrer, pour redonner des feuilles à ce nouvel arbre pour repartir pour l'année prochaine.
Merci Olivier Ribaud. On a reçu une autre question de la part de Solange. Fin juillet, elle a mis des feuilles de consoude hachées dans de l'eau, dans un baril fermé, afin de faire du purin. Sauf qu'elle a complètement oublié son baril et en faisant son rangement d'automne ces derniers jours, elle l'a retrouvé. Mais par contre, elle n'a pas trop osé l'ouvrir. Hein. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire s'il a trop longtemps macéré pour s'en servir comme purin ou si c'est carrément devenu un désherbant? C'est Solange, donc, qui nous pose cette question.
Non, alors sans problème, les purins d'ortie, les purins de consoude. Je dirais déjà par rapport à la consoude, cette plante qui est pas beaucoup connue. C'est une plante qui ressemble à de grandes feuilles, style rumex, je dirais. Ça fait les mêmes feuilles que le rumex. Et c'est une plante qui est beaucoup utilisée pour faire des purins. Donc si elle l'a mis macérée à cette période-là, il n'y a pas de souci, elle peut l'utiliser encore pour l'année prochaine, même parce que ça se garde dans un récipient fermé. Elle peut garder ça une année et demie, 2 ans, sans problème.
Et justement, cette consoude hachée, on la trouve facilement dans les champs?
Alors, la consoude, on trouve ça facilement en état naturel, oui, dans les champs, au bord de ruisseaux, ou bien en lisière de forêt. C'est une plante, justement, je vous dis, comme le rumex. Il faut faire attention parce que, bon, on la consomme aussi. Hein, c'est une plante qui a plusieurs utilisations. Elle peut être utilisée pour justement la manger crue ou en salade, donc on va plutôt l'utiliser au printemps quand elles auront des nouvelles feuilles. Il faut faire attention de ne pas la confondre avec une digitale qui est, elle, par contre, mortelle, je dirais. Alors il faut toujours un peu quand même être sûr de ce qu'on fait. Mais la consoude a aussi une petite floraison en été, fin d'été, en été jusqu'à l'automne. Donc ceux qui la connaissent vraiment, elle a un feuillage qui est très rugueux. Quand on au toucher, c'est là qu'on va la reconnaître. Et puis après, on va utiliser ça pour justement faire ses purins, pour soit être consommé au printemps, ou soit après, il a aussi des parties pour la médicinale ou comme ça. Mais après, bon, c'est des autres problèmes. Mais c'est vraiment une plante qui est intéressante pour ses purins d'ortie, de purins de feuillage qui vont très bien pour être utilisés après, pendant la saison, pour donner des vitamines à ses légumes, à son jardin, qui peut être... Ça s'utilise comme ça.
Et encore une fois, ça c'est bio, hein, c'est complètement naturel.
Voilà, exactement.
Et à quoi il faut être attentif quand on veut nous-mêmes faire notre propre purin?
Alors, pour faire un purin d'ortie, que ce soit n'importe quelle plante, vous allez cueillir justement du feuillage en grande quantité, que vous allez mettre macérer dans de l'eau, et puis vous allez le brasser quelques fois pendant sa fermentation, et puis après, ça va vous faire un liquide noir, un peu pas très agréable, c'est quand même une fermentation. Alors après, vous allez le filtrer, vous enlevez toutes les impuretés, les gros morceaux, qu'après vous allez garder dans des bidons, des récipients comme ça, propres. Et après, à l'utilisation, vous allez remélanger ça avec de l'eau claire. Donc vous allez mettre un litre de produit pour 10 litres d'eau. Et après, vous utilisez ça pour arroser vos plants, vos légumes, vos jardins, même vos fleurs dans des balconnières à l'extérieur. Ça va très bien.
On a une question qui nous est parvenue juste à l'instant par SMS, une question de Pascaline et Jean-Yves de Gletteran. Ils ont une haie de tuyas depuis cet été et quelques-uns ont séché. Ils se demandent à quoi est-ce dû, est-ce que c'est de la sécheresse par rapport à l'été qu'on a eu ou de la maladie. La haie a environ 7 ans et ils se demandent aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Oui, alors le grand problème du thuya cette année, c'est un peu général partout. On voit des thuyas qui commencent vraiment à venir brun-brun. Alors c'est quand même dû essentiellement à la sécheresse. On en avait parlé une fois déjà dans les jardinières, le thuya n'a pas un système racinaire très profond comme un arbre ou d'autres, un fruitier par exemple. Donc le thuya a ses racines sur entre 15, 20, 30 cm dans le sol. Donc là, on a eu un été très sec. Ils commencent à devenir bien bruns. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est éventuellement de mettre un petit système, si c'est des jeunes thuyas comme ça, un petit système goutte à goutte le long de la haie, en dessous de la haie, pour les humidifier encore bien jusqu'à avant l'hiver, que les thuyas retrouvent assez d'eau pour se regonfler, pour qu'ils puissent revenir bien, bien solides pour passer l'hiver. Puis au printemps, c'est là qu'elle verra les grands problèmes qu'on aura l'année prochaine. On aura vraiment des haies, des parties de haies, des endroits où il y aura eu de la casse. Donc il faudra sévir, soit couper la partie sèche, soit faire des remplacements. Mais ça, pour le thuya, ce sera, je dirais, à l'année prochaine de voir ce qui repartira puis ce qui repartira pas. Mais c'est essentiellement à cause du sec. Bien sûr, après, il vient une plante qui a été séchée, il vient quelques maladies, mais c'est pas ça qu'il faut combattre, c'est le sec. C'est que le thuya, maintenant, il faut le laisser reprendre et puis après supprimer ce qui sera vraiment foutu.
Et même qu'il a 7 ans, ça n'a pas vraiment d'incidence. Ça tient quand même des années.
Normalement, ça tient des années après, mais si on a plusieurs années qui souffrent, donc il s'affaiblit aussi à des endroits où c'est planté sur des situations plus arides, plus sèches, dans des talus ou dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de terre, pas beaucoup de frais, d'humidité. Donc il souffre beaucoup plus vite, puis ils dureront un peu moins longtemps.
Les jardinières.
Une autre question qui nous est parvenue par SMS, c'est quelqu'un, ce n'est pas signé, qui nous envoie qu'elle a ou qu'il a un bout de forêt. Et la personne aimerait bien savoir à quelle lune il faut abattre ces arbres pour une meilleure conservation.
Oula, alors là, il y a quand même des connaissances lunaires qui seraient peut-être à poser à des personnes un peu plus forestiers, je dirais. Mais si je peux donner mon avis, d'après mes connaissances, on dit toujours que le meilleur moment de couper des arbres, nous on le sait, de le regarder aussi un petit peu quand on va couper les sapins de Noël, c'est de les couper en lune descendante pour que justement la sève descende ou soit en partie descendue. Donc, mais après, il y a des formulaires, il y a des documentations là-dessus. Mais je pense quand même que le meilleur moment, c'est en lune descendante. Mais après, il faudrait peut-être un petit peu aussi se renseigner à plus fort que moi.
Mais c'est vrai que c'est déjà un bon conseil hein, pour les sapins de Noël, finalement,
C'est ce qu'on essaie de regarder. C'est pas toujours facile parce qu'après, on manquerait de temps par rapport à ces périodes qui sont données dans ces calendriers lunaires. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire à des périodes bien précises. Alors s'il faut respecter tout ça, des fois c'est un petit peu le manque de temps qui est compliqué. Alors voilà.
Parce que dans le calendrier lunaire, finalement, on peut s'y fier ou c'est toujours autant fiable.
Beaucoup de personnes qui font des jardins potagers qui se procurent justement le calendrier lunaire annuel, donc ça change chaque année, et puis qu'on peut respecter selon ce qu'on fait. On va dire nous par rapport au jardin qu'on va planter plutôt des légumes en lune montante, donc ils vont monter, on va semer les carottes en lune descendante pour qu'elles descendent belle droite. Il y a aussi des dictons, il y a aussi la partie où c'est que ça fonctionne quand même, et si ça existe, donc c'est que ça marche. Donc il y a quand même une partie de choses qu'on peut respecter puis qui vont très bien.
On a reçu une question de Roger de Sérénier qui nous parle de rosiers. Peut-on tailler des rosiers en automne? Si oui, quelle est la meilleure manière de le faire? Et sinon, quand est-ce le meilleur moment?
Alors, on taille en automne un rosier, c'est plus, je dirais pas c'est une taille, c'est plus un nettoyage. On va couper un rosier, donc un rosier de plate-bande, un rosier normal, on va le couper à une certaine hauteur, entre 30 et puis 50 cm, pour égaliser, pour enlever toutes les vieilles hampes florales, pour enlever le surplus de la tige, que de toute façon, on va l'enlever au printemps, parce que la taille, ça se fera plus au printemps, qu'on va rabattre nos rosiers sur trois yeux, donc très courts, pour que la pousse du printemps reparte depuis le plus près possible du collet de greffe, pour avoir des belles tiges. Mais si on fait ça à l'automne, puis qu'on a un hiver très froid, très rigoureux, on aura des pertes de bourgeons, donc on fait en automne une taille de nettoyage. On va les protéger, on va les enrichir, on va amener de la matière organique, on va remettre soit un fumier, soit un compost, quelque chose qui soit bien nourri, pour bien les nourrir pour l'hiver. Et puis qu'au printemps, ils aient ce qu'il faut pour qu'on puisse les labourer, les bêcher. Et puis après, les tailler très court. Justement, un rosier, ça se taille très très court, mais au printemps. On a aussi les rosiers qui sont rosiers grimpants, donc ils peuvent être aussi taillés. Alors là, on va garder les branches qu'on aura attachées contre les murs, contre les palissades, et puis qu'on coupera les branches latérales de nouveau à une certaine distance, qu'on peut retailler plus court au printemps pour justement refaire ces branches de floraison pour la saison prochaine.
Et on a une question un peu générale. Quelle est la meilleure façon de préparer son jardin pour l'hiver ?
Alors les jardins maintenant, à cette saison, on a bientôt tout récolté, à part peut-être quelques salades qui vont rester pour l'automne jusqu'aux premières neiges. Mais la meilleure chose à faire, ce serait d'amener, soit vous avez fait un compost, ou soit vous trouvez un peu de matière organique, un fumier qui a plusieurs mois de décomposition, que vous allez mettre sur le jardin, vous allez le bêcher, vous allez incorporer ça, ou le laisser en surface pour que la neige, la pluie fasse son travail pour le mettre dans le sol. Et puis après, laisser le jardin se reposer. On peut y emmener aussi des feuilles. Si on a beaucoup de feuilles, on peut mettre les feuilles sur le jardin. Et puis qu'après, on va les incorporer en les labourant dedans. Et puis pour l'instant, ça sera ça qu'on attend, parce que maintenant, on n'a plus rien à planter à part quelques ail, quelques oignons, comme on disait au début.
Pour le printemps.
Pour le printemps. Et puis après, qu'on puisse attendre les beaux jours de l'année prochaine.
Et en ce qui concerne les petites fleurs décoratives, alors on voit évidemment à l'heure actuelle les chrysanthèmes. Est-ce qu'il y aurait, à part les chrysanthèmes, quelques petites décos comme ça que vous pourriez conseiller pour les mois un peu plus froids ?
Alors justement, on peut faire des très belles décorations à l'automne. Vous trouverez maintenant dans les commerces, chez tous vos jardiniers, des pensées, des petites bruyères de couleurs, vraiment dans toutes les couleurs pour vous pouvez trouver. Et puis vous pouvez aménager ça, puis ça va tenir vraiment jusqu'à l'automne, jusqu'au très très grand froid. Même s'il fait des petites gelées ou des gelées de moins 2, moins 5 degrés, ça va résister. Comme ça, on peut garder encore un peu de couleur et de fraîcheur jusqu'avant Noël.
Eh bien, merci beaucoup. On approche de 8 heures. C'est gentiment l'heure de fermer le portail de notre jardin radiophonique pour le rouvrir samedi prochain. Olivier Ribaud, merci d'avoir répondu à toutes ces questions aujourd'hui.
Merci à vous, c'était gentil.
Et on vous souhaite une excellente journée à vous tous.
Et comme Stéphanie l'a dit, les jardinières reviennent la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle aventure jardinière. Vous avez des questions qui vous viennent d'ici là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les poser, les envoyer dès maintenant par SMS au 939 ou grâce au formulaire que vous trouvez sur nos sites internet. Et vos questions seront les premières à être lues samedi prochain. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h. Les jardinières.